5. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ataki prowadzone są z 4.
Владимир Путин у русских на Хомайбен Хойнолбон közölte.
Александр Лукашенко представил подробный анализ предпосылок нынешних событий.
Il y a celles et ceux qui parlent de guerre, d'invasion russe. Il y a celles et ceux qui reconnaissent le Kremlin et son président comme une force alliée. Deux camps pour une guerre qui se joue aussi sur le plan de l'information. Mais comment les médias, présents dans les pays limitrophes du conflit, traitent de ces événements? Comment les journalistes en Pologne, en Hongrie ou au Bélarus décryptent ce conflit? Trois pays aux frontières communes avec l'Ukraine et qui politiquement tournaient jusqu'à présent leur regard plutôt vers Moscou que vers Kiev. Passage en revue de la presse dans ces trois états, c'est l'instant M, vous êtes sur France Inter.
L'instant M, Eva Rock, sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, voyage en Europe de l'Est ce matin grâce à nos trois invités qui vont nous éclairer sur la façon dont la presse traite la guerre en Ukraine. Dans quelques minutes, nous rejoindrons en Hongrie Florence Labruyère, correspondante à Budapest pour Radio France, RFI et Libération. Et puis nous ferons ensuite un détour par la Pologne où se trouve le journaliste Béranger Dominici. Et en studio pour nous accompagner en ce mercredi 2 mars, Camille Magnard, journaliste à France Culture, chargée de la revue de presse internationale. Bonjour Camille.
Bonjour Eva.
Merci beaucoup d'être avec nous. Camille, avant de s'intéresser particulièrement au traitement de la guerre en Ukraine. Comment se portent la presse et les médias dans ces trois pays que sont la Pologne, la Hongrie et le Bélarus ?
C'est compliqué d'être journaliste et de garder une liberté d'expression dans cette région du monde. C'est compliqué un peu partout, on le sait. Mais c'est vrai qu'on est sur des pays, nos correspondants qu'on aura tout à l'heure le diront mieux que moi, où il est difficile de travailler quand on s'oppose à des gouvernements qui resserrent de plus en plus la vis. C'est le cas en Hongrie, où vraiment il y a eu une accaparation des médias et des groupes de médias par la holding qui est vraiment au service de Viktor Orban. En Pologne, c'est très clivé à l'image de la vie politique du pays. Il y a des médias publics qui sont vraiment mis au service d'une propagande très, très agressive contre l'Europe et à l'image un peu de ce qu'on peut trouver dans les médias russes. Et puis, quand même, dans ces pays-là, il y a une presse indépendante qui arrive à vivre, en particulier sur Internet. On arrive encore à trouver des sources. Moi qui travaille tous les matins en revue de presse sur ce matériau-là, on arrive quand même à trouver des voix dissonantes et en tout cas qui ne reproduisent pas les discours officiels. Après, sur le Bélarus,
on en parlait,
c'est plus compliqué, notamment depuis 18 mois, puisqu'il y a eu cette élection présidentielle où le dictateur Alexandre Loukachenko a été réélu, alors assez clairement de manière frauduleuse. Et cette élection donc a donné lieu à une très importante contestation de cette réélection. Il est au pouvoir là-bas depuis 30 ans, depuis la chute de l'URSS. Et le mouvement justement populaire de contestation de ces fraudes électorales qui voulaient le maintenir au pouvoir encore, ont amené en contre-coup une très très forte répression. On en a parlé ici même. Et depuis, c'est vrai, ça fait un an et demi que c'est devenu très difficile de trouver des médias indépendants d'opposition au Bélarus. Moi, je suivais pas mal certains titres sur Internet ou qui étaient encore publiés, que ce soit les Belorusskie Novosti qui ont été fermés, le site d'info Belorusskie Partizan qui aussi, au mois de novembre, là, a été déclaré comme un média extrémiste qui n'est plus publié. Donc voilà, c'est fou parce que depuis l'année dernière, en particulier ce resserrement-là au Bélarus, il y a 300 titres de presse, je crois, qui ont été fermés pour ça. Énormément de journalistes, la moitié de la profession, d'après l'Association des journalistes bélarusses, sont en exil, travaillent depuis l'étranger ou ne travaillent tout simplement plus. Donc voilà, c'est devenu compliqué. C'est un peu à l'image de ce qui se passe en Russie aussi. On l'a vu hier avec les fréquences qui ont été retirées, les sites fermés pour les médias d'opposition. Et pourtant, il n'en restait pas beaucoup, que ce soit la chaîne Écho de Moscou ou la télévision Doge. Donc voilà, on est vraiment dans cette dynamique-là au Bélarus en particulier. Et ça se ressent forcément sur la couverture du conflit en Ukraine.
Oui, Reporters sans frontières, l'ONG parlait d'une répression inouïe en parlant des médias et des journalistes au Bélarus. Peut-être que vous vous souvenez du détournement de cet avion civil qui a été obligé d'atterrir à Minsk. À son bord se trouvait un blogueur d'opposition, Raman Pratasevich, qui a été immédiatement arrêté. Et quelques jours après, on l'a retrouvé. Il était filmé depuis sa prison. Une vidéo dans laquelle il avoue avoir mené des manifestations contre le gouvernement, évidemment des propos obtenus sous la contrainte.
J'ai été arrêté hier par des agents du ministère de l'Intérieur à l'aéroport de Minsk. Je suis maintenant dans la maison d'arrêt numéro 1. Je n'ai aucun problème de santé. Le personnel se comporte avec moi de façon tout à fait adéquate et respecte la loi. Je continue de coopérer avec les enquêteurs. J'ai avoué l'organisation d'émeutes de masse à Minsk.
C'est assez symbolique le cas de ce jeune homme, de ce qui se passe en Bélarus avec toute tentative de parole opposée au régime en place.
Oui, ben d'ailleurs le média Nexta que dirigeait Pratasevich depuis continue à exister, mais seulement en tant que chaîne Telegram, donc ouais. Sur des réseaux fermés. Et c'est vrai que c'est à l'image de toute la répression qu'il y a eu pour toute cette génération en fait de journalistes. Il est très jeune, Roman Pratasevich, et c'est vrai que là par exemple, ben on voit que Nexta ne est devenu un média assez suivi, hein, que ce soit sur Twitter. Pratasevich lui-même n'a plus d'activité, il est très surveillé ouais. En Bélarus, il est toujours là bien sûr parce qu'il n'a pas pu partir, mais ces médias ont du mal à trouver des débouchés et de l'espace pour s'exprimer, ça c'est sûr.
Et vous arrivez quand même à avoir un regard sur un œil sur des médias qui sont encore au Bélarus, et alors j'imagine qu'ils sont évidemment contrôlés par l'État. Comment ils traitent de ce conflit en Ukraine? Est-ce que d'abord ils disent le mot conflit? Est-ce qu'ils disent le mot guerre?
Non, ils sont vraiment... Alors là, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que les médias belarusses et même l'État belarusse en général est dans un alignement assez complet
à Poutine
ouais. Et à la Russie et à la façon de présenter la guerre. Toute la désinformation, la propagande des médias russes officiels, on la retrouve vraiment, mais quasiment au mot près, sur l'agence officielle Belta au Bélarus et dans les médias qui justement ont encore le droit d'émettre, donc qui sont de toute façon au service de Loukachenko. Il y a vraiment les mêmes ressorts de propagande. On ne parle pas de guerre, on parle de conflit et de dénazification de l'Ukraine par le Donbass, de réponse à l'agression ukrainienne. C'est vraiment ces choses-là. Et puis surtout, on essaye de ne pas montrer. On parle de beaucoup d'autres choses, surtout. C'est ça qui est intéressant.
Oui,
alors
ça,
que
oui.
L'Europe et le monde entier ne parlent quasiment que de la guerre en Ukraine, et ben sur ces médias-là, on va vous parler des dernières compétitions de hockey ou des visites de Loukachenko dans des maisons de retraite. Enfin, ça continue comme si de rien n'était. C'est ça, la principale ouais. arme, c'est de faire comme si de rien n'était et de parler le moins possible de ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Quoi.
Je vous propose de partir en Hongrie, justement. On va rejoindre Florence Labruyère pour savoir si ça se passe aussi comme ça dans ce pays-là. Bonjour Florence.
Bonjour.
Jusqu'à présent, le gouvernement de Viktor Orban s'alignait sur la politique de Poutine. Et pourtant, très vite après l'invasion russe, hein, depuis la semaine dernière, on a vu que le discours a changé. Et on a vu notamment à la frontière une solidarité à l'égard des réfugiés ukrainiens. Florence, vous connaissez très bien ce pays et cette région. Comment la presse en Hongrie a choisi de traiter cette guerre? D'ailleurs, est-ce que le mot « guerre » est prononcé dans les médias?
Alors aujourd'hui, oui, mais c'est vrai, il faut dire que la Hongrie est quand même un pays unique dans l'Union européenne parce que c'est le seul pays où le gouvernement a bâti un empire médiatique énorme sur le modèle russe. Il y a près de 500 médias publics et privés qui sont regroupés dans un grand conglomérat et qui est dirigé par le ministère de la Communication. Oui. Ça paraît incroyable parce oui. que ça ressemble vraiment au livre de George Orwell. Alors, le narratif pro-russe coule à flot dans ces médias depuis des années, et il a eu un peu de mal à s'adapter au revirement de Viktor Orban, qui a quand même été forcé de s'aligner sur les positions de l'Union européenne, parce que 24 heures après l'invasion, donc après le 24 février, eh bien le narratif pro-russe était encore très présent à la télévision publique hongroise. On y entendait des experts accuser Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, d'avoir mis de l'huile sur le feu. Ils accusaient même Zelensky, ils le comparaient à Hitler. Ils disaient que si les Russes avaient pris la centrale de Tchernobyl, c'était la faute de Zelensky, qui avait franchi la ligne rouge en disant qu'il voulait développer des armes nucléaires. Alors évidemment, c'est pas facile de changer de logiciel du
bien
jour
sûr,
au lendemain.
Oui, hein. Oui.
Ça montrait vraiment que ces médias n'avaient pas encore reçu de directives du ministère de la Communication. Mais là, ils ont changé. Ils couvrent la guerre avec neutralité, disons.
Oui.
Ils parlent d'offensive militaire, ils parlent de l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a toute une blogosphère qui est proche du Fidesz, le parti de Viktor Orban. Et dans cette blogosphère, eh bien, le discours pro-poutinien continue.
Ah oui.
Là, on est six jours après l'offensive russe. Oui. Et il y a un blog qui s'appelle des chiffres, une alternative aux fake news de la gauche libérale. C'est un blog qui est vraiment intégré à l'empire médiatique du Fidesz parce qu'il est souvent cité par les médias mainstream.
Donc qui est puissant, qui a quand même une audience. Encore, oui. Qui a une audience, c'est un blog qui a une forte audience.
Bah, écoutez, 2,5 millions de vues pour une vidéo qui est encore en ligne aujourd'hui. Une vidéo complètement pro-Poutine parce qu'on y voit des prisonniers de guerre ukrainiens capturés par les troupes russes. Et des prisonniers qui sont traités avec beaucoup d'humanité. Alors, à l'évidence, selon le journaliste indépendant hongrois qui a écrit un article là-dessus, à l'évidence, c'est une mise en scène.
Bien sûr.
Une mise en scène pour essayer de convaincre les troupes ukrainiennes de rendre les armes. Et de leur montrer qu'ils auront la vie, sauf s'ils rendent leurs armes.
Et est-ce que dans les sujets, Florence, qui sont abordés par les médias et par les blogs également, dans la hiérarchie de l'information, quelles sont les infos qui sont traitées en priorité? Est-ce que c'est vraiment le conflit en tant que tel, l'avancée sur le terrain par exemple des forces russes, ou c'est l'accueil des réfugiés qui est devenu aussi un sujet traité par les médias?
C'est un peu les deux. Il reste quand même en Hongrie une petite dizaine de médias indépendants qui font d'ailleurs un travail formidable. Ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, les journalistes sont pas mis en prison, mais c'est assez difficile pour eux d'avoir l'information. Alors eux, je dirais qu'ils traitent l'information de manière objective et de manière très professionnelle. Dans les médias d'État et des médias privés contrôlés par Viktor Orban, c'est Viktor Orban qui est mis en scène aujourd'hui.
Oui.
On le voit partout, en bottes et en blouson quasi militaire. On le voit à la frontière, accueillir les réfugiés. Il faut rappeler que Viktor Orban est en campagne électorale. Les élections sont le 3 avril prochain. Et donc là, la guerre est finalement l'occasion pour ces médias très contrôlés par le pouvoir de montrer que Viktor Orban est l'homme qui prône la paix, qui soutient l'Union européenne, qui prône la paix et qui fait tout pour protéger les Hongrois. Le slogan principal, c'est « il faut protéger les Hongrois, il ne faut pas que les Hongrois se laissent entraîner dans le conflit ».
Oui, il faut qu'on rappelle d'ailleurs que la Hongrie est membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc ça explique aussi beaucoup de choses. Merci infiniment Florence Labruyère pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes la correspondante pour RFI, Libération et Radio France en Hongrie. Merci infiniment. Avant de vous redonner la parole, Camille Magnard, on va faire un petit détour aussi par la Pologne où nous attend Béranger Dominici. Bonjour Béranger.
Bonjour, bonjour.
J'ai découvert la une d'un quotidien libéral, alors excusez-moi pour la prononciation, Gazeta Wyborcza, c'est ça? On dit ça comme ça?
C'est à peu près ça.
Voilà. Merci pour votre amabilité à l'égard de ma prononciation, qui titrait « Nous sommes avec vous », donc en clair, oui, avec le peuple ukrainien. Est-ce que ces mots reflètent la position des médias depuis l'invasion de l'Ukraine?
Oui, absolument, oui, ça reflète la position des médias dans leur immense majorité.
Oui.
Il faut savoir qu'en gros, la plupart des quotidiens et plusieurs hebdomadaires ont vraiment intégré un drapeau ukrainien, ou en tout cas un bandeau aux couleurs du drapeau ukrainien sur leur couverture et même parfois à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment une cause qui est défendue par la totalité des médias. Peut-être une petite précision en fait sur la une que vous mentionnez. Donc, nous sommes avec vous, Mosvami. Donc, en général, c'est même écrit en ukrainien sur plusieurs publications, donc pas nécessairement en polonais. Et c'est également le slogan qui avait été clamé, qui avait été diffusé de la même façon en 2014 lors de la première phase du conflit ukrainien. Donc, en ce sens, il y a une certaine permanence dans la position des médias polonais sur la question ukrainienne.
Et alors, est-ce que l'accueil des réfugiés, parce que la Pologne est le pays qui a accueilli le plus de réfugiés, est-ce que cette question-là occupe aussi une grande place dans les informations qui sont consacrées au conflit?
Oui, absolument. Oui, disons en fait que ça occupe une place qui est à la mesure de l'effort d'accueil qui est fourni par le gouvernement polonais. C'est-à-dire que là, on a dépassé les 400 000 réfugiés en Pologne. Donc tous ne restent pas, j'imagine.
Oui.
Qu'il y en a certains qui effectivement ensuite se déplacent vers d'autres pays d'Europe plutôt occidentale, mais une immense majorité va effectivement rester ici. Et compte tenu du coup de l'ampleur quantitative. De l'arrivée de ces personnes-là, c'est effectivement reflété dans les journaux, que ce soit par des messages de soutien ou par des reportages directement faits à la frontière ou alors dans d'autres villes, simplement dans des villes qui sont impactées à des degrés divers.
Ouais. Et Béranger Dominici, c'est quand même un contraste saisissant de voir ces images de réfugiés qui sont accueillis à la frontière avec celles du mois de décembre à la frontière entre la Pologne et le Bélarus, où on a vu des réfugiés syriens, irakiens notamment, pris au piège entre les deux frontières, obligés de vivre dans une forêt, maltraités, violentés par les soldats. Il y a un télescopage absolu, hein, ouais.
Bah, disons que c'est vraiment très impressionnant. C'est-à-dire qu'on s'en souvient effectivement à l'automne qu'on avait au max 4000 personnes qui étaient à la frontière. Là, on est, donc je le répète, hein, au-dessus de 400 000. Donc c'est vraiment une multiplication par 100. Et effectivement, dans certaines publications, donc essentiellement évidemment plutôt des publications d'opposition, pas tout à fait pro-gouvernementales, ce contraste est souligné. En D'accord. indiquant effectivement que là où en automne il apparaissait impossible d'accueillir 4000 personnes, là pour 400 000, des efforts absolument phénoménaux sont déployés par les autorités.
Florence Labruyère vient de nous raconter qu'en Hongrie, il y avait des blogs qui étaient extrêmement puissants et qui étaient, en l'occurrence, en Hongrie, très pro-Poutine. Est-ce que, en Pologne, il y a aussi des réseaux sociaux et des blogueurs qui proposent une information qui tranche un peu avec les médias dits conventionnels ?
Pas vraiment. C'est-à-dire que la position, pour le dire en utilisant un euphémisme, la position méfiante envers la Russie est extrêmement majoritaire,
oui.
Que ce soit dans les médias d'opposition ou pro-gouvernementaux. Donc en fait, ces voix-là, elles existent, mais c'est réellement marginal. Il y a quelques éléments que certaines personnes qualifient de désinformation, et ça concerne l'arrivée de réfugiés qui ne sont pas ukrainiens, parce que vous savez probablement, il y a beaucoup de non-ukrainiens qui vivaient en Ukraine et qui du coup arrivent actuellement aux frontières polonaises. Donc ce sont des gens qui viennent du sous-continent indien, parfois qui viennent de divers pays africains. Et donc certains blogs, mais encore une fois, c'est plutôt marginal, pointe ceci et en insistant que la Pologne malgré tout devrait, je cite entre guillemets, défendre ses frontières, etc. Il y a déjà eu aussi quelques récits d'incidents
frontalières. Oui, ouais, complètement. Merci beaucoup Bérangère Dominici pour votre regard sur ces médias polonais et bon courage pour mener à bien votre mission de journaliste. Camille Magnard, comme tous les matins, vos yeux étaient rivés aujourd'hui sur la presse internationale, mais depuis ces quelques jours, est-ce qu'il y a un message un peu récurrent dans les médias quand on parle de l'Ukraine?
Il y a, on l'a dit, quelque chose de très viscéral dès qu'on parle de la menace russe telle qu'elle est ressentie par ces pays depuis toujours, parce qu'ils sont passés un peu par ce que l'Ukraine connaît aujourd'hui en voulant s'émanciper de l'orbite russe. Ils ont dû justement se mettre un peu sous couvert de la protection de l'OTAN. Et ces pays-là, quand ils imaginent des chars arriver dans Kiev, ça leur fait forcément remonter des souvenirs historiques pas faciles. Et ces pays se félicitent aujourd'hui de voir que l'Union européenne se réveille un peu et comprend ce qu'il disait depuis des décennies en disant méfions-nous de la Russie qui n'est jamais très loin, et on voit que le changement un petit peu de discours, le fait que l'Europe muscle clairement son discours par rapport à, et même ses pratiques par rapport à Poutine est salué clairement par ces pays qu'on va des pays baltes jusqu'à la Hongrie et à la Tchécoslovaquie, enfin en tout cas à la République tchèque et à la Slovaquie, c'est des choses qui touchent et qui sont vraiment remarquées par tous ces médias.
Merci infiniment de nous avoir accompagnés ce matin, Camille Magnard. On vous retrouve tous les jours sur France Culture à 7h35 pour la revue de presse internationale. Dans un instant, la journée spéciale et solidaire avec les Ukrainiens se poursuit sur France Inter. Bonjour Ali Rebehi.
Bonjour Eva Roque.
Vous parlez aussi des couleurs jaune et bleu.
Exactement,
hein.
Avec les Ukrainiens ce matin. Racontez-nous les initiatives solidaires près de chez vous. Vous pouvez également laisser des messages de soutien au peuple ukrainien en déposant une note vocale ou en nous appelant au 01 45 24 7000.